France Culture. La science CQFD, Natacha Trioux.
Dans la recherche pharmaceutique, l'une des stratégies consiste à réutiliser des médicaments déjà existants. C'est ce qu'on appelle le repositionnement thérapeutique. À quel point cette approche est-elle prometteuse ? Le concept est simple et relativement récent. Plutôt que de fabriquer un médicament de A à Z, on part d'une molécule déjà disponible sur le marché. Car un principe actif peut avoir plusieurs cibles biologiques et se révéler efficace pour traiter une autre maladie que celle pour laquelle il a été conçu. Une stratégie potentiellement précieuse pour toutes les maladies orphelines, dépourvues de traitement, ou pour faire face à des impasses médicales, telles que la maladie d'Alzheimer. Le repositionnement thérapeutique est-il une véritable mine d'or pour la médecine de demain ? Repositionnement des médicaments, la nouvelle ordonnance. Patrick Dalmagne, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes professeur de chimie médicinale à l'université de Caen, et membre de l'Académie nationale de pharmacie. Et en duplex de Lille, Dominique Deplanque, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, professeur de pharmacologie médicale et directeur du Centre d'investigation clinique à Lille. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation ici en direct dans nos studios à France Culture. Et merci à vous d'être là au rendez-vous en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur notre fil podcast de l'appli Radio France. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre pour nos conversations sur Blue Sky, sur notre compte @sciencecqfd. Tous les jours, on poste pour vous de nombreuses ressources complémentaires. Alors comment donner de nouvelles vies à d'anciennes molécules ? À quel point cette stratégie de repositionnement thérapeutique est-elle utilisée aujourd'hui ? Et pour quelle pathologie est-elle envisagée ? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, quelles sont les contraintes de la recherche pharmaceutique ? La question est posée en 1970, c'est notre archive du jour.
La quantité de drogue pharmaceutique, de drogue active absorbée par le français est annuellement d'à peu près 3000 tonnes.
Est-ce que cette consommation vous paraît exagérée ?
Personnellement, non, je parle en tant que médecin, car si vous la ramenez au nombre des Français, qui sont de 52 millions à peu près, vous tombez sur une consommation journalière de 16 centigrammes par personne. Si l'on tient compte qu'il y a tout de même des malades qui prennent journellement des médicaments, eh bien, ce n'est pas exagéré.
Il semble qu'il ne soit pas facile de faire un médicament.
Ce n'est pas facile du tout de faire un médicament. Et si vous en voulez un exemple, je vous citerai celui du plus connu, du plus populaire des antibiotiques, la pénicilline. La pénicilline a été découverte en 1928 par Sir Alexander Fleming. Il cultivait à l'époque le Penicillium notatum, une moisissure sur des plaques de gélose. Il a fallu attendre 1940. Vous voyez la différence 1928-1940. Pour que le biologiste germano-américain Chen réussissent à extraire et à isoler une pénicilline pure. C'est en 1943 seulement qu'on a pu soigner les premiers blessés militaires avec la pénicilline. Ensuite, il a fallu résoudre encore bien d'autres problèmes. Par exemple, créer les pénicillines retard, créer de nouveaux sels de pénicilline, mêler la pénicilline à d'autres médicaments tels que des ovules, des suppositoires, des sirops, trouver des formes pharmaceutiques. Voilà 40 ans que l'on travaille sur une famille de médicaments et ce n'est pas fini.
Voilà un extrait du JT de 20h sur la RTF en 1970. Patrick Dalmagne, on entendait dans cette archive, ce n'est pas facile du tout de faire des médicaments. Aujourd'hui, en 2025, c'est toujours le cas.
Oui, effectivement, je le confirme. Alors moi, j'appartiens à une unité de recherche qui s'appelle le Centre d'études et de recherche sur médicaments de Normandie, et dont l'activité, justement, est dédiée principalement au drug design, c'est-à-dire à la conception de nouvelles molécules d'intérêt thérapeutique ou bien diagnostique. Et en effet, ce n'est pas facile. Il faut utiliser un certain nombre d'outils, l'outil chimique, l'outil chémo-informatique, hein, les fameux tests in silico qui nous servent beaucoup. Et puis, il y a bien sûr des évaluations in silico, in vitro, in vivo, tout cela pour aboutir à des molécules actives et ensuite qui auront un long chemin à parcourir pour parvenir peut-être un jour sur le marché. On considère d'une manière très simple, très statistique, qu'il faut s'intéresser à 10 000 molécules pour qu'il y en ait une qui soit mise sur le marché. Au bout d'une vingtaine d'années, c'est assez classique comme chiffre, même si c'est un peu schématique.
Dominique Deplanque, quelle est votre réaction, vous aussi, à l'écoute de cette archive ?
Bien oui, les choses étaient difficiles déjà en 1970, mais ne se sont pas améliorées forcément au fil du temps, puisque au-delà du screening ou des travaux qui doivent être réalisés pour éventuellement sortir une future molécule, il y a ensuite un long parcours pour cette molécule candidat médicament, avec un grand nombre d'étapes à la fois avant d'arriver chez l'homme, puis ensuite dans le cadre des essais cliniques. Alors, pour ma part, je travaille aujourd'hui notamment dans une structure qui évalue les effets cliniques des médicaments chez l'homme. J'ai dans ma carrière d'enseignant-chercheur aussi travaillé plus en amont à partir notamment de modèles animaux dans des maladies neurologiques notamment en particulier. Mais ce parcours est long. Difficile en dépit de l'évolution des technologies et des technologies qui sont disponibles aujourd'hui. Et la longueur ou la difficulté est aussi liée aux contraintes réglementaires qui se sont installées au fil du temps, qui sont bien sûr nécessaires hein, pour protéger à la fois les personnes qui participent à la recherche et les futurs utilisateurs des médicaments. Mais finalement, en près de 50 ans, les choses ne sont pas plus faciles et par certains côtés peut-être plus difficiles encore.
On assiste en effet à l'augmentation des coûts de recherche et développement par médicament approuvé. Ils ont doublé tous les 9 ans environ entre 1950 et 2010. Patrick Dallemagne, pour aboutir justement à une molécule active, à un traitement qui fonctionne, ça prend combien de temps et ça coûte combien ?
Alors ça coûte effectivement beaucoup beaucoup d'argent, donc j'ai dit ça prend au minimum une vingtaine d'années. Hein. Nous sommes actuellement, pour ce qui nous concerne dans la recherche et dans l'identification d'un candidat médicament pour la maladie d'Alzheimer, je parle d'une molécule que nous avons créée, je ne parle pas du repositionnement pour l'instant, et ça fait déjà plus de 10 ans que nous sommes en développement, et elle n'est toujours pas parvenue en essai clinique, et nous espérons l'amener en essai clinique maintenant très prochainement. Alors le coût, c'est un coût, je l'ai dit, important. Les premières étapes sont certes coûteuses, il en va de quelques millions d'euros, c'est ce que nous avons pu pour l'instant, grâce à un certain nombre de fondations, d'associations récolter. Environ 5 à 6 millions d'euros, mais ce qui va coûter effectivement beaucoup, beaucoup plus cher, c'est toute la suite, notamment les essais cliniques. Hein, et on considère aujourd'hui que pour mettre sur le marché un médicament dans une maladie telle que la maladie d'Alzheimer, il faudra sans doute débourser plus d'un milliard d'euros.
Voilà pour le parcours dit classique. Dominique de Planck, maintenant, le repositionnement des médicaments, c'est un terme qui est apparu en 2004. Le concept apparu dans la littérature dans un article de Nature Review Drug Discovery. Alors comment est-il défini? Comment comprend-on ce concept?
Alors pour essayer de définir cela de manière assez simple, sans être simpliste, c'est finalement mettre à profit un effet latéral ou qu'on pourrait même considérer comme secondaire et non pas indésirable d'un médicament pour essayer de le repositionner comme traitement dans une autre pathologie que celle pour laquelle il a été initialement développé ou approuvé par les autorités. Et donc c'est réutiliser finalement un certain nombre de molécules qui sont disponibles, qui sont déjà éprouvées parce qu'elles ont été utilisées chez l'homme dans une, voire déjà plusieurs indications, et de voir, en faisant à la fois parfois un parcours avant de passer chez l'homme, ou en allant parfois plus directement chez l'homme, ça dépend un petit peu du contexte, de voir si dans une maladie tout à fait différente de celle pour laquelle le traitement était utilisé auparavant, eh bien ce même médicament peut avoir un effet pertinent, thérapeutique et à terme donc être mis à disposition des patients atteints de telle ou telle maladie.
On prend un médicament, on ne fait pas de modification structurelle, on l'exploite mais pour une nouvelle indication. Patrick Dallemagne, l'avantage majeur de ce concept, c'est le gain de temps et les économies?
Bien entendu, vous avez tout dit, effectivement. On va gagner du temps, on va gagner de l'argent, ça c'est au crédit de la démarche de repositionnement, bien entendu, puisque la molécule ayant déjà franchi toutes les étapes pour venir sur le marché du médicament, eh bien cela sera plus rapide. Hein. Elle a notamment en principe fait la preuve de son innocuité. Mais il y a quand même un revers à cela, c'est que la molécule est déjà connue, elle est tombée dans le domaine public, et il va être beaucoup plus difficile d'y intéresser un industriel pharmaceutique qui, à un moment ou un autre, devra intervenir pour aller jusqu'à la commercialisation, parce qu'évidemment, eh bien, beaucoup d'autres pourront faire la même chose que lui, et c'est le gros inconvénient du repositionnement, sauf à donner quand même une innovation à la molécule ancienne, qui peut être, par exemple, une nouvelle posologie, une nouvelle voie d'administration, hein, ou une association avec un autre médicament. Il y a moyen, malgré tout, de donner de l'innovation à des molécules anciennes pour pouvoir déposer malgré tout des brevets qui tiendront la route et qui permettront encore une fois à des industriels d'avoir pendant un certain temps une certaine exclusivité.
Dominique de Planck, vous partagez aussi ce point de vue sur l'inconvénient majeur de ce concept, c'est la question des brevets.
La question de la propriété de la molécule, certes, on peut faire du repositionnement sur des molécules très anciennes qui sont tombées dans le domaine public, mais il arrive qu'on puisse être amené à faire du repositionnement de manière un peu plus précoce. Et ça peut être là encore plus difficile d'interagir avec le titulaire du brevet de la molécule. Et pour les molécules les plus anciennes, parfois, il y a même des difficultés à se procurer la molécule, en avoir suffisamment pour conduire des essais, ou en tout cas conduire les différentes étapes qui pourraient amener à la démonstration de l'intérêt de celle-ci. Et puis enfin, là, comme l'a souligné mon collègue, la difficulté ensuite, c'est de porter un dossier pour avoir l'autorisation de mise sur le marché sur cette nouvelle indication. Si beaucoup de travaux de repositionnement sont conduits par des équipes académiques, dans le cadre de leurs activités universitaires notamment, le passage à une demande d'autorisation de mise sur le marché à l'une des grandes agences, notamment à l'EMA en Europe, nécessite des moyens indépendamment de ceux qui auraient été investis pour la recherche clinique, nécessite des moyens spécifiques. Et là, trouver un partenaire qui accepte de monter ces dossiers et d'aller jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché, parfois un combat un peu difficile ou en tout cas une difficulté importante du parcours du repositionnement d'une molécule.
On comprend bien en effet que ce facteur limitant, c'est le financement. Alors maintenant, quelles sont les molécules qui ont été repositionnées? Comment cette stratégie fait-elle avancer la recherche pharmaceutique? C'est ce dont on va parler dans quelques instants.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Patrick Dalmagne et Dominique de Planck, nous parlons de repositionnement thérapeutique, trouver de nouvelles vies à d'anciennes molécules. On vient de voir qu'il s'agit donc d'un processus de recherche, de nouvelles utilisations pour des médicaments existants, que ça permet de simplifier les procédures réglementaires pour obtenir, il y a pas tout un tas d'avantages, mais on n'a pas encore parlé des exemples très représentatifs de cette stratégie-là. En voici un des plus emblématiques.
Vous venez de prononcer le mot aspirine, et cette substance est un médicament merveilleux, puisque c'est le seul produit dont la consommation dans le monde a toujours été en augmentant. Mais il faut faire là une distinction extrêmement nette. L'aspirine est bien analgésique, mais d'une classe tout à fait différente de la morphine. Elle fait partie de ce qu'on appelle les analgésiques antipyrétiques, c'est-à-dire qu'elle est capable d'abaisser ou de supprimer certaines douleurs et également de faire baisser la fièvre. Il ne faut pas oublier qu'elle est beaucoup moins active que la morphine et n'agit pas du tout sur les mêmes types de douleurs. Il n'est pas question de calmer les douleurs d'un cancéreux ou d'un opéré avec de l'aspirine.
Et comment agit l'aspirine?
Il s'agit là d'un problème bien délicat, et on ne connaît pas grand-chose sur l'action analgésique de l'aspirine. On admet que cette substance agit sur la conduction de la douleur au niveau d'une sorte de relais de la sensibilité, relais qui serait situé dans le cerveau et que l'on appelle l'hypothalamus, où se ferait en quelque sorte un tri des sensations douloureuses et même de bien d'autres sensations.
Voilà un extrait de l'émission Le Progrès, la vie sur la RDF, la voix du professeur Boissier, agrégé de pharmacologie à la faculté de médecine de Paris. Dominique de Planck, on entendait parler donc de l'aspirine, cette analgésique. Nous étions en 1960, on ne savait pas encore que l'aspirine pouvait avoir plusieurs vies.
En effet, cette molécule a connu et connaît plusieurs vies, y compris même très récemment, en tout cas potentiellement une nouvelle vie s'ouvrirait à l'aspirine. Et l'une des principales indications, au-delà des effets antipyrétiques et anti-inflammatoires qui ont été longuement décrits, et pour lesquels finalement on a aujourd'hui d'autres traitements peut-être plus satisfaisant, ça a été le repositionnement en prévention des maladies cardiovasculaires par ses effets anti-agrégants plaquettaires. Et là, cette nouvelle indication qui a surgi il y a déjà de très nombreuses années a redonné un deuxième élan à ce médicament qui était pourtant déjà connu depuis, globalement depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Voilà, dans les années 80, en effet, l'aspirine est repositionnée pour empêcher la formation des caillots sanguins. Patrick Dallemagne, là, aujourd'hui, l'aspirine n'a peut-être pas fini de nous étonner, puisque on voit qu'un troisième repositionnement de l'aspirine est en vue, mais pour le traitement des cancers colorectaux.
Oui, exactement. Donc, comme quoi, effectivement, une très vieille molécule, c'est l'une des plus vieilles molécules utilisées en thérapeutique actuellement, peut encore connaître des rebondissements dans sa vie. Et effectivement, il y a des études actuellement qui sont menées pour un potentiel repositionnement dans le cancer du côlon.
Voilà, le médicament le plus consommé dans le monde. Le traitement, le repositionnement thérapeutique, il n'y a pas que l'aspirine qui est ce seul médicament à avoir vécu une seconde vie. On a aussi un cas, la thalidomide, qui est connue, qui est à l'origine d'un désastre pharmaceutique et d'un scandale sanitaire mondial. Dominique de Planck, ça montre aussi que cette stratégie de repositionnement thérapeutique, ça concerne aussi des médicaments qui ont été retirés du marché en raison de problèmes de sécurité.
Oui, tout à fait. Alors, si on prend l'exemple de la thalidomide, je pense que tout le monde nous sommes nombreux à avoir en mémoire la raison pour laquelle ce médicament a été retiré, puisque à la fin des années 50, début des années 60, ce médicament qui était consommé assez fréquemment au premier trimestre de la grossesse a été responsable de la survenue d'une véritable épidémie de malformations des membres chez des enfants nouveau-nés. Que le lien a été fait relativement rapidement, pardon, et que pour des raisons de sécurité et de santé publique, il a été retiré du marché. Et ça n'est que un peu plus récemment que, en explorant les effets de différentes molécules sur certains cancers, en particulier des cancers du sang comme le myélome, qu'il est apparu que cette molécule pouvait avoir un intérêt et qu'à condition de l'utiliser en évitant bien sûr de la prescrire à des femmes en âge de procréer ou qui seraient qui plus est enceintes, eh bien ce médicament pouvait modifier de manière assez importante la prise en charge d'un cancer un peu particulier qui est le myélome. Donc voilà, typiquement, un médicament jeté à la poubelle à un moment donné, hein, clairement, qui ressort des archives à la lueur d'un effet nouveau retrouvé à l'occasion de recherches plus récentes et qui finit, après la réalisation d'essais cliniques spécifiques, qui finit à nouveau à être remis sur le marché pour une pathologie qui est demeurée ou qui demeure parfois difficile à traiter.
Patrick Dallemagne, comment a-t-on compris justement que ce médicament pouvait être utile contre le cancer, contre le myélome multiple ?
Eh bien, ce qui est frappant dans l'histoire, alors moi je dis le thalidomide, parce que je suis chimiste et que les amides, c'est du masculin. Et donc, le repositionnement du thalidomide, ce qui est frappant dedans, c'est qu'en fait, c'est exactement le même mécanisme qui est à l'œuvre à la fois dans l'effet on dit tératogène, c'est-à-dire responsable de malformations, et l'effet anticancéreux, parce que dans l'effet tératogène, c'est parce qu'en fait, la molécule va empêcher le développement des vaisseaux sanguins autour de l'embryon que celui-ci va connaître, donc des malformations des membres. Et évidemment, dans le traitement cancéreux, c'est également un effet sur les vaisseaux sanguins qu'on appelle anti-angiogénique, qui est responsable du bénéfice thérapeutique. Donc on le voit, hein, eh bien, pour un médicament, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, mais souvent, eh bien, il y a des intérêts dans toutes les activités d'un médicament, même si effectivement c'était dramatique pour les malformations des enfants dans les années 60. Et puis je peux préciser également qu'avant cela, le thalidomide a été repositionné une première fois contre une complication de la lèpre, qu'on appelle l'érythème noueux, contre lequel également il a déjà montré un intérêt. Il a été utilisé en Afrique pour cela. Malheureusement, sans les précautions d'usage, c'est pour la raison pour laquelle il a à nouveau fait eh bien, des malformations chez les enfants.
Dans cette stratégie de repositionnement thérapeutique, on s'intéresse aussi, là on vient parler des problèmes de sécurité, mais on s'intéresse aussi aux effets secondaires d'un médicament. Là on peut raconter l'histoire du sildenafil, qui est initialement étudié comme antihypertenseur potentiel, étudié par Pfizer. Il a été démontré que cette molécule produisait une vasodilatation. On s'est donc demandé s'il pouvait soigner l'angine de poitrine, et là, Dominique de Planck, en fait, bon, c'est pas assez efficace pour soigner les angines de poitrine, mais on a découvert un effet secondaire inattendu.
Bien, en effet, ce médicament n'avait un effet antihypertenseur et de traitement des angines de poitrine considéré comme insuffisant, mais chez la plupart des hommes qui étaient inclus dans les essais, est apparu que la prise de ce médicament, le sildenafil, produisait une vasodilatation, mais dans un organe un peu particulier, en fait favoriser, faciliter l'érection. Et donc, sur cette constatation un peu liée au hasard, bien sûr, hein, puisque c'était pas une stratégie de développement initiale, ce médicament n'a jamais, ou en tout cas aujourd'hui, il garde potentiellement une indication, mais dans des troubles assez particuliers, hein, comme l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est un sujet un peu à part. Mais globalement, ce médicament a été développé pour être mis sur le marché comme le traitement, est devenu le traitement de référence des troubles de l'érection sous le nom de beaucoup plus populaire de Viagra.
Et une autre indication également pour ce Viagra, enfin, ou plus exactement pour le sildenafil, Patrick Dalmagne. On a aussi les troubles érectiles et puis cette même molécule qui est aussi utilisée pour traiter l'hypertension artérielle pulmonaire.
Exactement, donc comme quoi effectivement on peut trouver plusieurs usages à un médicament sur la base de mêmes propriétés. On peut dans le même plan évoquer une autre molécule, le minoxidil, qui était également un vasodilatateur développé pour l'hypertension artérielle et qui en fait aujourd'hui est utilisé contre l'alopécie pour faire repousser les cheveux, parce que la vasodilatation des vaisseaux du cuir chevelu permet en effet une repousse des cheveux avec cette molécule qui n'est plus utilisée comme anti hypertenseur, qui ne l'a même jamais été à mon sens, mais qui est aujourd'hui un médicament pour cela.
Dominique de Planck, par rapport à l'aspirine et le thalidomide, on peut parler de médicaments pléiotropes. Alors qu'est-ce que ça implique justement, cette caractéristique-là ?
Cette notion de pléiotropisme, bon, qui est un peu parfois un élément commercial de temps en temps, hein, traduit simplement que le médicament va pouvoir agir sur plusieurs cibles pharmacologiques. Mais globalement, il y a par essence un certain nombre de médicaments dont on sait qu'ils agissent sur de nombreuses cibles. Et l'action sur des cibles secondaires, donc qui ne sont pas la cible pour laquelle on les utilise dans une indication thérapeutique, peuvent être soit finalement le support d'effets indésirables, soit le support d'effets secondaires, un peu à l'image du sildenafil, qui sont ensuite exploités dans le cadre d'une nouvelle indication. Alors, comme j'ai la parole, je voulais revenir brièvement sur le minoxidil. Ce qui est intéressant sur cette molécule, c'est que là aussi l'effet anti-alopécien, en tout cas favorisant la repousse des cheveux, a été découvert un peu par hasard, mais à l'occasion de l'utilisation thérapeutique au début de sa mise sur le marché, par la déclaration d'effet indésirable de survenue d'hyperpilosité chez les patients qui recevaient ce traitement. Et dans un deuxième temps, il y a eu des travaux qui montraient qu'effectivement, dans certaines conditions, cela pouvait permettre de traiter certaines formes d'alopécie.
Alors, ne peut-on remercier que le hasard dans cette recherche-là ? Quelles sont les méthodes utilisées pour savoir quels médicaments sont repositionnables et comment repositionner une molécule ? Restez avec nous, on y arrive.
va mal, quand je n'ai pas le moral, quand je sens mes nerfs qui craquent, ou lorsque je suis patraque, pour me mettre dans le vin, je connais un bon moyen. Dans un verre d'eau sucrée, je prends pour me remonter
du silicate anhydrique de magnésium, du pas du sulfogaïacol de potassium, du glycérohydrate monoammoniacal, du bichlorhydrate mylénique officinal, de l'orthodioxybenzénotocopherol, du gaz oxypropanédiol en ampoule, de la binophénisulfonatamphétamide, de l'hexachlorocyclohexanesculoside, de l'acide alinisopropyl orbiturique, de l'éthabenzylammoniumcotyl phosphorique, de l'acétylaménéphénylarsinazole, du gaz oxypropanédiol en capsule.
Rien ne vaut, je le proclame, les vieux remèdes de bonne femme. Mon grand-père, d'un geste fier, en sortait de sa tabatière. Papa qu'était estafette, en avait dans sa musette. Et quand j'ai passé mon bac, je trimballais dans mon sac.
Ah, du silicate anhydrique de magnésium, du poids du sulfogaïacol de potassium, du glycérohydrate monoammoniacal, du bichlorhydrate mylénique officinal, de l'orthodioxybenzénotocopherol, du gazoxypropanédiol en ampoule, de l'aminophénisulfonatamphétamide, de l'hexachlorocyclohexanesculoside, de l'acide alinisopropyl barbiturique, de l'éthabenzylammoniumcotyl phosphorique, de l'acétylaménéphénylarsinazole, du gazoxypropanédiol en capsule.
Et si vraiment ça ne va pas mieux,
Cresoxypropanédiol en capsule de Ginette Garcin en direct sur France Culture, car nous parlons de repositionnement thérapeutique en compagnie de nos deux invités du jour. Patrick Dalmagne, professeur de chimie médicinale à l'Université de Caen et membre de l'Académie nationale de pharmacie, et Dominique Deplanque, médecin, professeur de pharmacologie médicale et directeur du Centre d'investigation clinique à Lille. On a vu qu'une fois dans le corps, un principe actif possède souvent plusieurs cibles. Un traitement évalué pour une maladie donnée peut donc se révéler également efficace pour une autre. Et on continue avec le reportage du jour et notamment l'intérêt de cette stratégie pour les maladies orphelines. Parmi les pathologies pour lesquelles le repositionnement des médicaments s'avère très intéressant, on retrouve un grand nombre de maladies rares. C'est le sujet de notre reportage aujourd'hui, c'est avec vous Loïc Dutoit, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous vous êtes rendu dans les locaux d'Eurodix, une fédération d'associations de patients de maladies rares qui fait partie d'un projet européen qui soutient le repositionnement des médicaments.
On dénombre entre 6 et 8 000 maladies rares. Ce sont des maladies très hétérogènes et pour une majorité d'entre elles, elles sont même qualifiées d'ultra rares car elles touchent vraiment très peu de patients. Certaines concernent par exemple seulement une dizaine de personnes en Europe et donc l'intérêt économique à développer un médicament est quasiment nul pour une compagnie pharmaceutique. Alors la recherche de thérapies pour lutter contre ces pathologies rares s'intéresse de plus en plus à la réutilisation de médicaments déjà existants. Virginie Hiver est directrice par intérim d'Eurodix. Elle a travaillé sur une liste de recommandations afin d'aider à développer une plateforme européenne qui vient en soutien au projet de repositionnement des médicaments.
Repositionnement, ça peut concerner en fait des candidats à médicaments qui soit sont déjà sur le marché. Dans ce cas-là, on va déjà avoir des données, par exemple le profil en fait du médicament en termes de sécurité pour les patients. On n'aura pas forcément les données sur l'efficacité dans la maladie concernée. Il y a aussi des cas de repositionnement où en fait les molécules ont commencé à être développées mais ne sont jamais arrivées du tout sur le marché. Donc là, on va déjà avoir un début de données qui ont été collectées au cours du développement thérapeutique. Mais il va falloir quand même vraiment démontrer leur efficacité et leur potentielle tolérabilité avant de pouvoir progresser et de pouvoir avoir ces molécules arriver sur le marché. Donc aussi, en termes de repositionnement, on est sur un champ qui est assez vaste et on n'a pas forcément, dès le départ, toutes les données qui sont nécessaires pour ce repositionnement. Donc c'est pas forcément plus simple. Ce qu'on a pu observer, c'est que la plupart des gens qui ont mené à bien des projets de repositionnement nous disent quand même qu'il y a eu un certain effort à faire, soit pour collecter les données qui avaient été générées dans le passé, soit régénérer eux-mêmes des données à partir d'études précliniques ou à partir d'études cliniques, donc en organisant aussi des essais cliniques.
Et à partir de votre expérience, de tout ce que vous avez vu ces dernières années, c'est qui justement ces gens qui vont faire des recherches pour essayer de repositionner des médicaments ? Est-ce que c'est uniquement des chercheurs dans des laboratoires en pharmacologie ? Ou est-ce qu'il y a aussi, par exemple, des patients aussi ou des personnes proches d'un malade, dans la famille d'un malade ou ce genre de choses ?
Oui, alors ce qu'on observe dans le repositionnement, c'est que il y a eu quelques exemples de repositionnement qui ont été menés par des compagnies pharmaceutiques. Souvent, néanmoins, le début, l'idée du repositionnement vient d'une observation d'utilisation hors indication du médicament en question. Donc c'est souvent par des cliniciens à l'hôpital ou par les patients eux-mêmes. Donc il y a eu vraiment des exemples, et en particulier j'ai en tête un exemple d'une molécule qui a été développée pour être utilisée dans une maladie rare qui est la captonuria. Donc il y a eu toute une histoire de cette molécule, mais au départ c'était un désherbant. Donc en fait, c'est vraiment flagrant en fait tout le potentiel des molécules chimiques et la façon dont on les utilise, le dosage, donc d'où la nécessité de générer des données.
Avec un groupe de travail, Virginie Hiver a cherché à identifier les critères qui permettent de repositionner un médicament de manière pérenne. Ils ont publié leurs résultats, une suite de recommandations, dans la revue Rare Disease and Orphan Drugs Journal. Cet article scientifique a contribué à élaborer la plateforme Remedy for All, qui donne une infrastructure de soutien aux projets de repositionnement de médicaments et qui a été financée par la Commission européenne à hauteur de 23 millions d'euros.
L'article, il est fait à partir d'interviews et d'analyses de projets de repositionnement qui ont abouti ou qui n'ont pas abouti. Donc, on voulait vraiment tirer les leçons de ça.
Est-ce qu'on peut peut-être en prendre un exemple ?
Oui, donc un des points crucial qui revenait vraiment dans la plupart des analyses, c'est que donc la collaboration avec les associations de patients est essentielle, puisqu'en fait, ça permet vraiment aussi de savoir qu'est-ce qu'il faut développer, quelles sont les attentes des patients, quels sont les besoins médicaux qui sont non couverts. Et d'autres recommandations qui sont aussi essentielles, c'est d'interagir le plus tôt possible avec les autorités de régulation, c'est de pouvoir vraiment préparer le plus tôt possible l'accès au marché. Et donc d'anticiper, en fait, d'avoir un plan de développement dès le début qui vraiment anticipe toutes les étapes. Donc c'est comme ça qu'on a vraiment dérivé ces 10 recommandations. Et c'est ce qu'on a essayé donc d'appliquer dans Remedy for All. Et d'un point de vue engagement des patients, donc on a vraiment voulu essayer de créer pour chaque projet un duo entre un clinicien ou un chercheur et un patient. Par ailleurs, c'est pas forcément le clinicien qui amène le projet. Parfois, ça peut être aussi le patient. Donc, c'est vraiment un vrai duo et c'est vraiment une vraie collaboration.
Je crois qu'on est ici dans des locaux qui sont fournis par l'AFM Téléthon. Est-ce que eux aussi financent ce projet d'une
Alors,
manière ou d'une
dans
autre ?
Dans le cadre de Remedy for All, c'est vraiment un financement européen. Par contre, dans le cadre de la plateforme Maladies Rares et en particulier de Eurordis, donc l'association que je dirige actuellement, nous sommes soutenus par l'AFM Téléthon et donc c'est vraiment l'occasion pour moi de rappeler que effectivement si aujourd'hui en France et en Europe on se préoccupe de plus en plus du repositionnement des médicaments pour les maladies rares, c'est aussi grâce à l'AFM Téléthon et donc c'est grâce à la générosité des Français. Donc c'est aussi l'occasion pour moi de rappeler que la campagne du Téléthon 2025 est lancée et donc que vous puissiez être au rendez-vous les 5 et 6 décembre prochains.
Merci Loïc Dutoit. Nos reportages loin du studio pour se frotter à la science telle qu'elle se fabrique au quotidien, c'est notre collection La Science au Labo, et c'est à podcaster sur l'appli Radio France. Dominique de Planck, une réaction à l'écoute de ce reportage ?
Oui, ce reportage illustre bien un aspect qui est parfois minoré de la stratégie de repositionnement, c'est-à-dire que ça n'est pas forcément un long fleuve tranquille et que même si on envisage ou qu'on espère que le temps nécessaire à mettre sur le marché un médicament à travers une procédure de repositionnement soit plus court que celui de la mise sur le marché d'un nouveau médicament, d'une nouvelle molécule, ça n'est pas toujours le cas. Et en tout cas, là, ça inclut, ça oblige à un certain nombre d'étapes qui, chacune, ont leurs difficultés. Un exemple qui a été formulé, c'est celui de l'accès aux données déjà connues d'un médicament. Parce que les médicaments qui sont aujourd'hui sur le marché ont fait l'objet de diverses études dans le passé. Les données de ces études sont possédées par le détenteur initial du brevet, qui ne partage pas forcément l'ensemble de ce type de données, y compris et notamment, par exemple, les données qui ont été générées par des analyses chez l'animal et qui, notamment, s'intéressent à la sécurité du produit dans diverses conditions. Aujourd'hui, lorsqu'on veut reprendre un parcours de repositionnement et que l'on veut constituer un dossier le plus complet possible pour qu'à terme il puisse être validé par les autorités, eh bien obtenir ces données est certainement un élément crucial. Sinon, parfois, il faut les générer de nouveau, ce qui constitue à la fois un temps et de l'argent perdu. Et puis ensuite, le partenariat entre les médecins et les patients, notamment dans le cadre de maladies rares, est probablement très très important. Il faut quand même souligner, ça n'a pas forcément été souligné dans ce petit reportage, qu'on dispose en France finalement, suite à la mise en place de plusieurs plans sur les maladies rares, de centres de référence qui sont répartis sur le territoire national, qui permettent d'accueillir les patients porteurs de maladies rares, voire extrêmement rares, et qui permettent finalement de générer déjà des données de suivi, qui permettent une meilleure connaissance des maladies, et qui permettent d'envisager avec les patients quelles pourraient être finalement les approches futures, sachant qu'aujourd'hui, comme il a été rapporté dans le reportage, les maladies rares, c'est entre 6000 et 8000 maladies fort différentes les unes des autres, et globalement, uniquement 5% de ces pathologies ont un traitement qui permet d'en compenser par un certain degré les inconvénients et permettre de limiter l'évolution de ces pathologies. Donc il reste beaucoup à faire sur ce champ. Le système de repositionnement est une opportunité, mais n'est pas forcément très facile. Et pour terminer, effectivement, les personnes qui se lancent dans un repositionnement doivent monter une stratégie complète jusqu'à la mise sur le marché. Et ça, c'est compliqué, il faut être accompagné. Donc l'Europe accompagne pour constituer des dossiers spécifiques dits médicaments orphelins, avec des aides particulières, y compris pour donner des conseils sur les méthodologies, les modalités d'organisation des futurs essais cliniques, afin de coller, d'être au plus près des attentes des autorités pour la mise sur le marché future.
Patrick Delmaigne, votre réaction vous aussi à l'écoute de ce reportage?
Oui, mais le domaine des maladies rares est vraiment un excellent exemple et contexte où le repositionnement peut apporter toute son utilité, hein, puisqu'on l'a dit, le faible nombre de patients n'incite pas les big pharma, comme on dit, à s'intéresser à la découverte de nouveaux traitements pour ces maladies. Donc le repositionnement peut apporter effectivement dans ce cadre-là une solution. Il y a d'autres domaines où le repositionnement peut apporter également une solution. C'est notamment, et on l'a connu il y a très peu de temps, lorsqu'on est face à une urgence sanitaire, et l'exemple de l'épidémie de Covid-19 a été tout à fait frappant pour le développement de stratégies de repositionnement de molécules. Hein, et
on oui, avec des résultats plus ou moins heureux.
Plus ou moins heureux, on va pas revenir sur une fameuse molécule qui va, mais d'autres exemple, on faillit, et notamment, puisque mon collègue est de Lille, notamment à Lille, on faillit porter leurs fruits, hein, et voilà, sauf que ben, ça évolue tellement vite, une pandémie telle que la dernière qu'on a vécue, ben, que les essais cliniques n'ont pas pu parvenir jusqu'à leur terme.
En effet, on comprend pourquoi le repositionnement thérapeutique, c'est quelque chose d'intéressant dans ces cas-là. On va arriver dans quelques instants au cas de la maladie d'Alzheimer. Mais d'abord, peut-être toujours sur les maladies rares, Patrick Delmaigne. Il y a aussi le cas de l'alpélisib qui a été repositionné dans le cadre d'une maladie rare.
Oui, bah tout à fait. C'est un exemple frappant de réussite et voilà, comme quoi le repositionnement, ce n'est pas seulement une théorie. Hein. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup de médicaments sur le marché sont en repositionnement. Énormément de médicaments avec un très grand chiffre d'affaires. Il faut le dire aux patients, il faut le dire aussi au big pharma, parce que on peut faire de l'argent également, dans le bon sens du terme, avec le repositionnement et au bénéfice des patients. Il y a des réussites tout à fait notables.
Dominique Deplanque, vous souhaitiez compléter?
Oui, sur l'alpélisib, c'est un exemple très intéressant, parce que c'est pas une molécule ancienne, et le repositionnement de l'alpélisib sur une maladie qui s'appelle le syndrome de Kloves, en l'occurrence, a été fait alors même que l'alpélisib était en cours de développement dans une autre pathologie, en l'occurrence, sauf erreur, un cancer. Et donc, vous voyez, même des molécules qui sont en cours de développement peuvent se retrouver rapidement dans un circuit parallèle de repositionnement et venir finalement appuyer ou être le traitement futur d'une maladie rare ou une maladie extrêmement rare, comme dans l'exemple précis.
Alors comment, maintenant, d'un point de vue méthodologique, Dominique Deplanque, on a vu que certains repositionnements ont été découverts totalement par hasard, enfin, du moins grâce à la clairvoyance de cliniciens face aux effets inattendus d'un traitement. On a parlé du Viagra, du minoxidil, mais on peut dire merci à la chance, mais pas seulement. Quelles sont donc les méthodes principales?
Alors peut-être que mon collègue qui s'occupe de chimie pharmaceutique et qui dispose des outils ou utilise plus régulièrement que moi un certain nombre d'outils de screening de molécules pourrait compléter, mais on peut avoir finalement avec ces anciens médicaments qui sont disponibles, ces anciennes molécules qui sont disponibles dans des banques de molécules, eh bien la même approche que pour les médicaments nouveaux, c'est-à-dire de tester ces molécules sur différents dispositifs afin de voir quelles cibles sont activées ou au contraire inhibées, et si ces cibles correspondent à une pathologie particulière, parce que dans telle ou telle maladie rare ou maladie beaucoup plus fréquente, on met en évidence tel ou tel mécanisme délétère, eh bien, s'intéresser de plus près aux effets que pourrait avoir cette molécule ancienne sur le devenir des patients qui présentent finalement une voie physiopathologique, une voie pathologique qui est potentiellement activable ou modulable par l'une de ces anciennes molécules.
Parmi les méthodes qui sont utilisées aujourd'hui par les chercheurs, Patrick Dalmagne, on a en effet le criblage de chimiothèques. Les chimiothèques, ce sont un peu des bibliothèques de substances chimiques, où les livres, ce sont des molécules. Mais en quoi consistent ces criblages plus précisément ?
Alors, les chimiothèques, ce sont des collections effectivement de molécules. Alors, ça peut être des chimiothèques de molécules déjà sur le marché, hein, ou ça peut être également des chimiothèques de molécules qui sont en cours d'évaluation. Hein. Donc, il y a les deux sortes de chimiothèques, et il y a pour tester ces chimiothèques des outils chémo-informatiques qui vont permettre de tester in silico, c'est-à-dire sur un écran d'ordinateur, très rapidement, un grand nombre de molécules. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une notion statistique dans la découverte des médicaments. Hein. Pour faire simple, un médicament sur le marché pour 10 000 molécules considérées. Et on comprend bien que si on utilise des outils puissants pour cribler, c'est le terme qu'on utilise, pour fouiller ces mines d'or que constituent les chimiothèques, eh bien, on va plus rapidement arriver à sélectionner des molécules d'intérêt. Et puis, si je peux poursuivre, il y a un outil également qui est précieux, c'est la Banque internationale d'effets indésirables, auxquels ont accès, par exemple, les centres de pharmacovigilance dans tous les CHU de France. Nous avons nous-mêmes travaillé avec le centre de pharmacovigilance du CHU de Caen pour identifier des effets indésirables qui étaient représentatifs d'une action vis-à-vis d'une cible thérapeutique. Et c'est ainsi que nous avons pu sélectionner, hein, sur cette banque qui est mondiale, eh bien, des effets indésirables qui nous ont conduits vers des molécules utilisés actuellement comme antidépresseurs et dont les effets indésirables nous ont orientés vers une cible qui n'était pas connue pour ces molécules, cette cible étant pour sa part d'intérêt dans la maladie d'Alzheimer.
Dominique Deplanque, en effet, ça peut paraître complètement contre-intuitif comme ça, mais une banque mondiale de recueil d'effets indésirables de médicaments, c'est un outil très précieux, comme on vient de le dire.
Alors, ce type de banque, entre guillemets, existe à deux niveaux, parce que les centres régionaux de pharmacovigilance, qui sont 31 en France, alimentent une base nationale, qui elle-même alimente une base internationale, qui est effectivement accessible à un certain nombre de personnes, sous couvert de la recherche notamment. Et à l'image du minoxidil, où un effet indésirable a fait émerger un effet secondaire potentiellement utile, eh bien, le questionnement de ces grandes bases de données concernant les effets indésirables de médicaments peuvent aider, le cas échéant, à trouver un effet utile pour une indication différente de celle pour laquelle les médicaments ont été utilisés, à l'image de ce que M. Dallemagne a décrit il y a un instant.
On évoque de grandes bases de données, Dominique de Planck. Impossible de ne pas évoquer l'IA. Forcément, dans ce cadre-là, quel rôle peut jouer l'intelligence artificielle dans cette recherche?
Alors, le rôle de l'IA, certainement, va s'amplifier probablement dans les années à venir, puisque finalement, c'est un outil ou une série d'outils qui permettent d'analyser un grand nombre de données, qui permettent aussi de simuler des données, y compris jusqu'à simuler des cohortes de patients. J'étais en début d'après-midi dans une réunion qui traitait justement de ces aspects de simulation de cohortes de patients. On parle aussi parfois de jumeaux numériques. Mmh. Eh bien, ces outils du screening de molécules anciennes ou nouvelles jusqu'à la simulation in silico d'essais cliniques permettrait ou permettront à terme d'accélérer peut-être encore certains processus de découverte, mais ne pourront pas se substituer, bien sûr, à la mesure de l'effet réel d'un traitement chez les patients dans des conditions d'essais cliniques un peu plus conventionnelles.
Voilà, et pour tout comprendre, tout savoir des jumeaux numériques, nous avons consacré une émission la semaine dernière, Jumeaux numériques, le patient modèle. On vous poste tout de suite sur Blue Sky le lien de notre émission. Et tout de suite, soigner la maladie d'Alzheimer en réutilisant d'autres médicaments, on y arrive.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Patrick Dallemagne et Dominique de Planck, nous parlons de comment repositionner des médicaments pour tout un tas de pathologies. Parlons maintenant de la maladie d'Alzheimer. On a connu quelques progrès, mais quand même, les traitements actuels contre cette maladie neurodégénérative ciblent essentiellement les symptômes. Et ces traitements restent d'ailleurs globalement assez limités dans leurs effets. À l'heure actuelle, on n'a que 4 médicaments anti-Alzheimer qui sont disponibles. Patrick Dallemagne, pourquoi un si maigre panel de substances actives contre cette maladie?
Alors, la maladie d'Alzheimer, effectivement, et sans doute une impasse médicale, en tout cas pour l'instant, même si des espoirs sont en train de naître. Donc il y a peu de médicaments utilisés, ils sont relativement peu efficaces, et en plus de ça, ils perdent leur efficacité avec l'évolution de la maladie, c'est inhérent à leur mécanisme d'action, donc c'est quelque chose de difficile, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils sont déremboursés aujourd'hui. Il y a quand même un espoir, je disais, c'est qu'aux États-Unis et même en Europe maintenant, même s'il n'est pas encore disponible, eh bien un ou plusieurs anticorps sont apparus, et ces anticorps, même si ce n'est pas la panacée, présenteraient une certaine efficacité. Malheureusement, ils ne sont pas pour tous les patients. Ils sont assortis également, eux aussi, d'effets indésirables sévères. Et puis, ils ont un coût important, bien entendu. Tout ça fait que, on continue à rechercher des petites molécules pour essayer de faire aussi bien, voire mieux qu'eux, et avec un moindre coût et moins d'effets indésirables.
En tout cas, c'est vrai que cette stratégie, dans ces conditions, c'est une option de plus en plus utilisée. Je voyais aux États-Unis, le février 2020, le site gouvernemental américain des essais cliniques anti-Alzheimer recensait 53 études qui impliquaient 58 substances déjà approuvées par la FDA. Ça représente 39% de la totalité des essais cliniques. Ça veut dire qu'on met quand même une grande partie des efforts sur des molécules qu'on connaît déjà.
Oui, c'est toujours le cas aujourd'hui. Hein. En 2025, il y a un tiers des médicaments en essai clinique qui sont en repositionnement. C'est pour essayer, encore une fois, de sortir de cette impasse avec des molécules qui pourraient présenter un intérêt. Et c'est nous-mêmes ce que nous essayons de faire actuellement dans notre unité de recherche avec nos centres hospitaliers.
Dans votre équipe, en effet, Patrick Dallemagne, vous avez mis en évidence le potentiel d'un vieux médicament anti-asthmatique dans la prise en charge de la maladie d'Alzheimer.
Exactement. Alors, on ne va pas donner le nom du médicament
pour des raisons
évidentes, mais il s'agit effectivement d'un très vieux médicament anti-asthmatique au long cours, qui est en fait ce qu'on appelle un pro-médicament, c'est-à-dire qu'une fois administré, il va subir l'action d'une première cible, une enzyme, et ensuite il va y avoir libération de véritables principes actifs qui permet la bronchodilatation et donc de venir en aide aux patients asthmatiques. Eh bien, nous avons considéré en observant finalement les deux cibles de ce médicament, la première qui l'active et la deuxième qui lui permet d'exercer une bronchodilatation, nous avons considéré que cette molécule pourrait présenter un intérêt dans la maladie d'Alzheimer parce qu'il se trouve que les deux cibles sont présentes dans le cerveau et constituent des cibles d'intérêt thérapeutique dans cette maladie, avec quand même un gros challenge, c'est de faire parvenir la molécule dans le cerveau, puisque normalement, ça reste à vérifier chez le patient Alzheimer, mais normalement, la molécule ne passe pas dans le cerveau si elle est administrée par voie orale. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé et nous l'avons démontré que si on l'administre par voie intranasale, là, elle parvient directement dans le cerveau où elle va activer les deux cibles dont j'ai parlé et présenter un puissant effet anti-Alzheimer vis-à-vis notamment des plaques séniles qui caractérisent la maladie, des agrégats amyloïdes et puis également des troubles cognitifs dont souffrent les patients. Bien sûr, pour l'instant, ceci a été démontré chez l'animal, ça reste à démontrer chez l'homme. C'est la raison pour laquelle nous sommes actuellement en cours d'investigation pour mettre en place un essai clinique chez l'homme avec le soutien de la Fédération pour la recherche médicale, AFRM.
Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles nous ne donnerons pas le nom de cet anti-asthmatique, puisque ces essais cliniques qui sont encore en cours, pour venir à la toute fin de cette discussion, Patrick Dallemagne, là on parle en effet de recherche on tâtonne, on fait ces essais cliniques, mais en France, on a aussi le système de santé qui nous permet l'usage de médicaments, parfois aussi à titre compassionnel.
Exactement. Alors peut-être c'est mon collègue qui s'exprimera davantage sur cet aspect, sur cet aspect des choses. Et je l'ai dit actuellement, notre médicament, qui coûte très peu cher et qui a très peu d'effets indésirables, il est disponible sous la forme de comprimés. En théorie, il ne passe pas dans le cerveau, il ne passe pas la barrière hémato-encéphalique, sauf que chez le patient Alzheimer, cette barrière, elle a des fuites. Et donc nous sommes actuellement en train de vérifier si il ne pourrait pas ce médicament, y compris par voie orale, présenter un intérêt, et peut-être dans le cadre de protocoles compassionnels, si cela a été accepté par les autorités de régulation du médicament.
Voilà, et malheureusement, nous sommes arrivés à la toute fin de cette discussion, et je ne peux pas me tourner vers Dominique Deplanque, mais merci, un grand merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique Avec Science, mais pour tout comprendre de cette maladie, je vous invite aussi à écouter le podcast Alzheimer, j'ai la recherche qui flanche. Et tout de suite, un tout autre sujet, Alexandra Delbo nous raconte l'histoire d'un astéroïde. Et tout de suite, c'est Avec Science.
Comment retracer l'histoire des astéroïdes qui tombent sur Terre? C'est ce qu'on appelle un astéroïde géocroiseur, c'est-à-dire dont l'orbite croise celle de la Terre. Et leur détection est toujours assez limitée parce que les astéroïdes réfléchissent peu la lumière et donc on ne les voit pas ou on les voit très tard. C'est ce qui est arrivé avec celui-ci, découvert le 12 février 2023, soit 7 heures seulement avant l'impact. Sylvain Boulet est planétologue au laboratoire Géosciences Paris-Saclay.
L'histoire, elle commence le 12 février, finalement, en Hongrie, en fait, puisque c'est un astronome hongrois, hein, Christian Sarneschki, qui a, depuis l'observatoire de Konkolo, eh bien, découvre ce petit astéroïde. Et puis, très vite, il se rend compte que cet astéroïde va rentrer en collision avec la Terre. Il fait les premiers calculs, il se rend compte que l'impact va avoir lieu 7 heures après sa découverte et que l'objet va tomber en Normandie, eh bien, autour de 4 heures du matin. Au moment de l'observation, il va contacter un collègue croate pour vérifier ses observations. Très rapidement, les observations sont confirmées. Et là, il va envoyer l'information à l'Union Astronomique Internationale, aux différentes agences spatiales. Et en fait, en quelques minutes presque, en fait, un communiqué est annoncé. En fait, l'objet, si vous regardez vers 22h, 23h, le soir de la découverte, il y a déjà de nombreux communiqués, en fait, notamment sur les réseaux sociaux, qui annoncent l'entrée de l'astéroïde dans l'atmosphère. Et cette annonce, finalement, même quelques heures avant l'entrée dans l'atmosphère, nous a permis de toucher un grand nombre de personnes pour avoir des données supplémentaires au réseau de caméras Fripon dont on s'occupe.
D'emblée, il faut le dire, on savait que ce serait un objet de l'ordre du mètre. Pas de risque de cratère géant, ni d'extinction de masse, et même très peu de danger pour les humains ou les infrastructures. Un astéroïde de cette taille se fragmente en grande partie dans l'atmosphère. La vraie question était donc, allait-il en rester quelques morceaux et pourrions-nous retrouver des météorites au sol? Et pour le savoir, il faut filmer la chute. Et c'est l'objectif du réseau Fripon. Ce sont 100 caméras vidéo et 25 antennes radio installées partout en France pour voir et écouter les météores qui tombent sur Terre. Mais ce n'est pas suffisant pour les scientifiques, car il manque de bras et de jambes pour aller débusquer ces météores. C'est pourquoi Fripon s'appuie sur Vigiciel, un programme qui mobilise des volontaires pour photographier la trajectoire du bolide et partir sur le terrain à la recherche des fragments. Seulement deux jours plus tard, le 15 février en fin d'après-midi, une étudiante en art découvre lors des battues un premier petit fragment enfoncé dans la boue près de la ville de Saint-Pierre-le-Vigier en Normandie. Une centaine d'éclats seront finalement découverts dans les semaines suivantes et ce sont l'ensemble de ces analyses, des météorites mais aussi de la trajectoire dans l'atmosphère et dans l'espace de cet astéroïde nommé 2023-CX1 qui ont permis de retracer son histoire et c'est l'objet d'une nouvelle étude parue dans Nature Astronomy.
Cet astéroïde, hein, donc on a effectivement déjà l'orbite, donc on sait d'où il vient, hein, il vient de la ceinture principale entre Mars et Jupiter, et en fait en étudiant notamment les caractéristiques chimiques de l'objet, on arrive à dater en fait son histoire, notamment qu'il est issu d'un corps parent qui en fait s'est désintégré il y a 30 millions d'années, donc il s'est détaché de cet objet il y a 30 millions d'années, et il a tourné au fur et à mesure autour du Soleil et il est arrivé sur Terre 30 millions d'années après. Donc on arrive à comprendre son origine. Il est issu d'une famille qu'on appelle la famille Massalia, en fait, qui est un astéroïde qui s'est désintégré en plusieurs morceaux, et donc grâce à toutes ces caractéristiques orbitales mais aussi chimiques, on arrive un peu mieux à comprendre son histoire.
C'est le 7e objet à avoir été détecté avant collision avec la Terre et le tout premier dont on obtient une analyse aussi complète. Et l'une de ses particularités, c'est qu'il s'est brutalement désintégré à 28 km d'altitude, perdant ainsi 98% de sa masse d'un coup, un comportement rare pour un astéroïde de cette taille. L'histoire de l'astéroïde 2023-CX1 s'arrête ici, on sait désormais tout de lui. En revanche, les implications pour la défense planétaire continuent. Chaque jour, on découvre de nouveaux astéroïdes géocroiseurs. La plupart passent à plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Mais cela souligne l'importance de multiplier les télescopes, les capteurs, les réseaux d'alerte pour réagir aussi efficacement qu'ici. L'autre enjeu, c'est de s'entraîner à dévier des astéroïdes géocroiseurs. C'était l'objectif de la mission DART en 2022, percuter un astéroïde et sa petite lune pour modifier leur trajectoire. La collision a bien eu lieu, avec succès. Reste maintenant à en mesurer précisément les effets. Et c'est la mission, cette fois, de la sonde HERA, lancée il y a tout juste un an. Elle devrait arriver aux abords de l'astéroïde à l'automne 2026.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD, à la réalisation Françoise Le Floch, à la technique aujourd'hui Grégory Wallon et Cécile Monoa, à France Bleu, ici Lille. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.